pouvons atterrir dans la e-santé par hasard, mais y rester est souvent un choix. Cela a été mon cas. Je suis Mélanie Dufrou, aujourd'hui fondatrice de Mivi, la première agence de communication dédiée exclusivement à la e-santé. Je vous propose d'aborder dans ce podcast aujourd'hui la question de pourquoi créer son entreprise ou évoluer dans le secteur de la e-santé. Si je vous prends mon cas, la jeune étudiante de 25 ans que j'étais a atterri par hasard dans ce secteur, mais avec beaucoup de chance. J'ai rencontré Laurent Frigara, cofondateur de l'entreprise Innovacom, et avec Sophie Feuillin-White, aujourd'hui directrice des filiales pour Sophie Médical, ils ont réussi clairement à me communiquer leur passion. Alors, je vous propose d'aller à la rencontre aujourd'hui des acteurs incontournables qui font la e-santé. L'objectif, comprendre leurs choix, leurs convictions, leurs valeurs qui les poussent aujourd'hui à évoluer dans le secteur de la santé numérique. J'ai donc profité du salon Leader Santé Expo pour mener ma petite enquête. Vous aimez ce podcast ? Aimez, partagez, réagissez et en attendant, très bonne écoute. Et me voici au micro avec Dominique Lehal. J'ai la chance de recevoir la journaliste e-santé qui est dans le secteur depuis plus de 20 ans maintenant. Bonjour Dominique, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous présenter rapidement votre rôle et votre parcours ?
Bonjour Mélanie, merci de votre accueil, merci de me recevoir. Et bien effectivement, je suis journaliste indépendante spécialisée e-santé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que depuis plus de 20 ans, effectivement, j'explique, je raconte, je décrypte ce que recouvre la e-santé. Enfin, on dit plutôt le numérique en santé aujourd'hui, mais bon, on va parler de e-santé pendant ce podcast. Alors je le raconte, je l'explique pour des publics. Le plus souvent des publics professionnels qui travaillent donc dans ce secteur santé, protection sociale, mais aussi parfois pour le grand public et en fait de plus en plus pour le grand public puisque le grand public découvre la e-santé depuis quelques années tout de même.
Et c'est quoi justement pour vous la e-santé ?
Alors expliquer ce que recouvre la e-santé de mon point de vue, puisque j'ai une formation en sciences humaines et sociales, c'est raconter quel est son impact économique, social et politique, son impact sur notre vie quotidienne, sur les décisions économiques, sociales et politiques qui sont prises dans le monde de la santé et de la protection sociale. Et pour moi, la e-santé, c'est pas juste un truc de technique, d'ingénieur, c'est une transformation radicale, c'est un processus radical de transformation du secteur santé sociale sous l'influence de la dématérialisation et de la mise en algorithme. Alors, cette transformation radicale, j'estime qu'elle a une dimension politique. C'est pour ça que je préfère l'observer sous cet angle-là, des sciences humaines et sociales. Et je suis persuadée de plus en plus qu'elle devrait être guidée par une vision globale, c'est-à-dire que les ingénieurs nous apportent leur savoir, leur mise en pratique, leur mise en algorithme, mais c'est quand même la vision politique de la e-santé qui doit continuer à primer de plus en plus puisqu'elle doit outiller, si on peut dire ça comme ça, le système de soins que nous voulons demain. Tant qu'on n'a pas dit quel système de soins je veux demain, qu'est-ce que ça veut dire prendre soin au 21e siècle, on pourra toujours inventer tous les systèmes d'information qu'on veut. On se plaindra ensuite. Ah, mais ils sont pas appropriés. Ah, mais il y a de la résistance, etc. D'accord, mais est-ce que vous avez travaillé en amont pour savoir qu'est-ce que vous avez à outiller?
Donc pour vous, la e-santé, c'est pas tant un secteur d'activité, en fait, c'est surtout complémentaire au monde de la santé aujourd'hui, au secteur de la santé à proprement parler.
Alors, ce qu'on peut considérer avec le numérique en santé et le stade où on est arrivé aujourd'hui, parce que je n'aurais pas dit du tout la même chose il y a 20 ans, hein. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on baigne dans le numérique, ça y est, on a eu un peu deux étapes clés. Une étape qui nous a poussé de l'avant et une étape qui nous freine sur les 20-25 dernières années. L'étape qui nous a poussé en avant vers le numérique, je considère que c'est l'arrivée de l'iPhone. C'est le fait qu'on ait cet assistant numérique dans la poche, au plan professionnel, au plan individuel. C'est ça qui est un élément, un équipement important dans la transformation. Important, mais pas suffisant.
La mobilité.
Et puis, la mobilité et surtout la facilité de prise en main, c'est-à-dire c'est beaucoup plus simple de prendre un smartphone en main que ça ne l'a été pour un ordinateur. Ça veut pas dire qu'on va pas faire des bêtises avec, mais bon, c'est un autre problème. La deuxième période importante, c'est donc il y a l'effet iPhone pour moi 2007, et il y a un autre effet, alors contraire, puisqu'il nous freine depuis, c'est l'effet Snowden. C'est-à-dire que 2013, Snowden nous a fait au monde un certain nombre de révélations qui ont permis au grand public et donc aux professionnels, puisqu'on est, quand on est professionnel, on a aussi quand même une dimension d'acteur grand public, de se dire, oulala, mais est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de choses auxquelles on devrait se mettre à réfléchir plus largement,
la sécurité des données, bon, la confidentialité.
Donc, pour revenir au fait, je vous disais tout à l'heure, on baigne dans le numérique. Il faut considérer le numérique comme un milieu dans lequel on est en train de se transformer au même titre que notre milieu urbain, etc. Mmh. Ce milieu nous influence, mais on a aussi toute la capacité de nous influencer. Et mon regret aujourd'hui, après cette observation de 20-25 ans de numérique en santé, c'est qu'on n'ait pas encore pris le pli de passer au cap où on influence le milieu. On est encore dans le cap, dans l'étape où on se dit, finalement, il faut que je m'adapte. Allez, je m'adapte. Aller dans un hôpital, demander à un aide-soignant, une infirmière, etc., s'il considère qu'il a la main sur son outil ou s'il doit s'adapter à son outil. Bon, alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une itération, il y a une interaction.
Mais il y a une vraie démarche utilisateur.
Parce que si on veut un progrès, si on veut vraiment une innovation, oui, on va pas se contenter, comme on l'a fait pendant tellement longtemps, de passer des dossiers médicaux Bristol, papier, de les mettre en fiche informatisée. Ça n'a pas de sens. Autant utiliser l'intelligence de l'homme pour mettre de l'intelligence dans la machine et outiller des processus. Malheureusement, j'ai toujours un petit regret de voir que c'est long.
Il faut être patient. Mais la e-santé s'est construit et continue de se construire. C'est vrai. C'est totalement vrai. Et justement, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que vous travaillez dans ce secteur. Comment vous avez atterri dedans?
Alors, mon histoire avec la e-santé, bon, c'est une histoire avec le numérique qui remonte à la télématique. Au Minitel. Je suis un peu le dinosaure avec une consoeur du quotidien du médecin avec laquelle j'ai beaucoup travaillé dans au début des années 2000, Marie-Françoise, on s'appelait effectivement les dinosaures de la e-santé. Et en fait, mon histoire avec le numérique, elle remonte à la télématique, j'ai été rechercher la date là récemment parce que je me souvenais plus quand ça avait été publié, mais il y a eu un rapport qui s'appelle le rapport Nora Minc. Qui a été pour ma génération, j'étais étudiante à l'époque, le premier rapport sur l'informatisation de la société, qui a été assez fondateur pour un certain nombre de choses, et le lancement du Minitel. Donc ça a été ma première sensibilisation, et je me suis dit, oh là là, il est en train d'arriver avec le rapport de Raminck et puis tout ce qu'il y avait autour, et il est en train d'arriver quelque chose dans notre société qui va créer des ruptures, qui va nous transformer. Après, très concrètement, mais c'était pas très concret. Ensuite, très concrètement, j'ai travaillé dans diverses presses professionnelles, nature économique, etc. Et je me suis retrouvée dans la presse touristique. En étant dans la presse professionnelle touristique, j'ai eu l'occasion d'aller découvrir aux États-Unis un des premiers grands systèmes d'information mondiaux. Enfin, de mon point de vue, peut-être que, parce que j'étais pas dans la santé à l'époque, peut-être que des gens dans la santé me diraient « Ah mais non, c'est pas du tout ça ». Bon. Moi, le grand système d'information qui m'a le plus impressionné dans les années 80, je pense.
C'était dans quel hôpital?
Alors, c'était pas d'hôpital puisque j'étais dans la presse touristique à l'époque. Mm-hmm. C'était les premiers grands, ce qu'ils appelaient les Global Distribution Systems. C'était la première fois que je voyais comment une compagnie aérienne et un ensemble de compagnies aériennes et à la greffer ensuite les compagnies hôtelières, etc., mettaient en place un système d'information qui vous permettait de réserver un voyage dans un process qui paraissait limpide, adapté, pratique, qui apportait un plus aux agents de voyage comme aux clients, comme enfin à tout le monde, c'était assez fabuleux. Donc ça s'appelait ça. Bon, après ça s'est transformé, ça s'est appelé Amadeus parce qu'Air France a rejoint, etc. Enfin bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire de la télématique. Et donc là, je me suis intéressée beaucoup plus concrètement à ce que une informatisation, une dématérialisation pouvait apporter en termes de services. Mais j'étais dans le milieu du tourisme. Et mon arrivée dans le numérique en santé, donc pour moi, l'arrivée de l'Internet après la télématique, tout ça, c'était un peu une évidence que j'allais m'y intéresser. Après, il y a eu une époque très importante pour y travailler concrètement. Je la dois au fait que j'ai travaillé avec Philippe Ébéillard, le docteur Philippe Ébéillard, donc qui est un médecin qui malheureusement nous a quittés il y a 2 ans, au mois de mars de 2020. On était ensemble à Panorama du médecin, la revue du praticien, et avec Philippe, on était sur les ancêtres des forums, les bulletin board services, avec les premiers groupes de médecins qui utilisaient les serveurs, les messageries, forums, tout ça pour échanger, on partageait à cette époque, donc on était entre 95 et 2000, la vision idéaliste et utopiste de l'arrivée des réseaux. C'est-à-dire que c'était les réseaux pour la connaissance, pour le partage, le savoir, la formation, l'apprentissage, pour l'éducation des patients. Enfin bon, on était complètement excités à l'idée que l'arrivée d'Internet. Et en plus, on était avec nos modems je sais pas si vous vous souvenez.
Avec le fameux bruit.
Voilà, il fallait quand même attendre que l'information soit délivrée.
Il ne fallait pas téléphoner
en quelques minutes. Et donc avec Philippe Ébéillard, on a imaginé beaucoup de choses. Et lui, il a écrit beaucoup de chroniques sur l'intérêt de l'arrivée d'Internet dans le monde de la connaissance médicale et pour les pratiques médicales.
Qu'est-ce qui vous avait passé du tourisme à la e-santé? C'est la rencontre avec le docteur Ébéillard.
Ce qui m'a fait passer du tourisme à la santé, c'est le fait que j'étais rédactrice en chef dans un journal professionnel de tourisme et que un ami m'a dit « Ah bah tiens, un jour, Panorama d'une médecin recherche un rédacteur en chef, etc. » Et donc, je suis arrivée dans la santé plus en termes de manager d'équipe rédactionnelle que la dimension numérique, la dimension développer des supports sur l'informatique médicale, etc. En fait, ça s'est produit parce que j'avais déjà ce goût-là de la presse que j'avais eu dans la presse touristique, et puis parce que j'ai trouvé à travailler en binôme. S'il n'y avait pas eu Philippe Ébéillard, je serais peut-être pas allée sur les premiers babillards avec les médecins, et après Ful Médico qui était un des premiers grands forums de médecins utilisateurs de l'informatique médicale. Ça discutait, mais c'était formidable, sans filtre. Et puis après,
c'est une histoire de passion. C'est un peu une histoire de passion qui vous a communiqué et vous y êtes resté finalement.
Il m'a fait comprendre. Philippe Ébéillard m'a permis de comprendre la médecine alors que je débarquais d'un autre milieu. De partager tout ça avec un médecin qui était passionné par la chose, ça m'a permis moi de donner un sens,
un nouveau sens, ouais,
à toutes ces affaires.
C'est quoi pour vous les plus grosses avancées que vous ayez pu voir en termes de technologie, justement, quand on parle de robots? C'est quoi les plus gros jalons? Vous avez parlé de l'iPhone tout à l'heure. Clairement, en termes de mobilité, ça a été une sacrée innovation, en termes d'usage aussi. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu en arrière, c'est quoi les grosses technologies où vous vous dites ça a été un sacré changement?
C'est des petites choses en fait, il y a pas forcément c'est des petites choses qui mûrissent et qui s'accumulent comme une série de briques qui permettent de construire un mur ou un bel immeuble et qui tout d'un coup prennent une forme intéressante. Et il y a si on parle du côté des choses, alors des choses spectaculaires, je crois qu'elles sont le spectaculaire. Oui, il y a eu des trucs spectaculaires, je pense à quelque chose, mais ça sert à rien en fait, j'ai envie de vous dire. bon, l'opération Lindbergh. Voilà.
Spectaculaire.
Voilà, l'opération Lindbergh, c'était spectaculaire, je me souviens, on était
Est-ce que vous pouvez rappeler l'opération Lindbergh?
Alors c'était le professeur Marisco à Strasbourg qui avait réussi à mettre en place une chirurgie assistée avec le concours des équipes de, à l'époque ça s'appelait France Télécom, qui le faisait à distance. Donc sa patiente était à Strasbourg et lui était à New York, si je me souviens bien, ou l'inverse. Moi, je pense qu'il, oui, je pense que lui, il était à New York et la patiente à Strasbourg. Et c'était une opération. Enfin bon, peu importe. Je crois que c'était en gastro. Enfin bon, mais ça a été une prouesse technologique parce que la prouesse, elle était de l'ordre de la transmission du signal. Vous pouvez pas vous permettre que le signal, il arrive en 3 secondes.
Non, pas dans une opération.
Par exemple, hein. Donc ça a été applaudi. Et alors peut-être ça a eu des retombées, et sans doute ça a eu des retombées sur des tas d'autres choses. Ça a eu des retombées sur l'engagement de Jacques Maresco, par exemple, dans la formation à la chirurgie à distance, etc. Mais faire des opérations à distance sur le plan de l'opération elle-même, bon bah ouais, ok.
Mais c'est impressionnant, ça reste impressionnant.
C'est impressionnant. C'est un peu comme quand on envoie, quand on fait le Concorde. Est-ce que ça a des, quand on fait une innovation spectaculaire, l'invention elle-même, elle n'est pas destinée à être répliquée. Les grands progrès intéressants. Mmh. C'est entre 2000 et 2010, c'est le fait que les patients aient accès à de l'information sur le web, la partage, et c'est la naissance du patient. Alors on l'a appelé acteur, etc., mais c'est la naissance de tout ce qui nous a amené vers aujourd'hui ce qu'on appelle le patient expert. Ça a facilité la reconnaissance du fait que le patient a un vécu qui est une composante à part entière de sa maladie, et que le médecin doit se rendre compte, ou le professionnel de santé doit se rendre compte, que ça suffit pas d'être performant sur le soin de l'organe, mais il faut prendre l'individu dans sa globalité. Et ça aurait peut-être pu se produire sans l'information sur le web, sans les échanges, les forums, les communautés de patients qui se retrouvent en ligne pour échanger, pour
se dire. Vous pensez pas que ça a permis, mais
ça a boosté, ouais. Parce qu'effectivement, c'était plus facile à faire que quand on avait juste Santé Magazine tous les mois, quoi. Mais on aurait aussi pu imaginer de le faire, et ça continue à se faire d'ailleurs, parce qu'il y a des rencontres physiques en petits groupes et tout. Là, simplement, ça démultiplie le potentiel et les possibilités. Donc ça, pour moi, c'est une grosse avancée. Donc c'était l'ère du développement de l'information. Et puis après, on est passé dans l'ère des. Donc ça, c'est 2000-2010 en gros. On est passé dans l'ère des services 2010-2020. Oui. Là, c'est le symbole, c'est Doctolib. Mais en fait, ça faisait quand même. Je ne sais pas si vous l'attendiez depuis longtemps, mais moi, le fait de prendre rendez-vous en ligne, on m'aurait permis de le faire en 2000, ça m'aurait bien facilité la vie, parce que
ça permet de gagner du temps.
Non, mais c'est surtout. Enfin, moi, surtout quand on est une femme qui travaille, on arrive chez soi et on se dit mince, il est 21h. J'ai toujours pas pris rendez-vous pour les enfants avec le dentiste, ou etc., etc. Voilà. Et puis ça repart le lendemain.
Bon, si et on oublie.
Voilà. Le jour où vous avez Doctolib, jeune femme, des jeunes enfants à amener, un coup chez le dentiste, un coup chez le pédiatre, etc. Bah vous faites ça dans la nuit. Puis voilà. C'est aussi bête que ça. Hein. Mais bon, ça peut être le papa aussi.
Et le papa, bien entendu, aujourd'hui, il le fait également.
Voilà, voilà. Bon, donc là. Les deux grandes avancées, c'est plus d'informations qui permet plus de partage, et donc de connaissances partagées entre les professionnels et les patients, et plus de services. Et aux États-Unis, il y a des choses que je voudrais surtout pas qu'on suive, mais il y a des choses intéressantes où ils sont allés beaucoup plus loin que nous dans l'intégration du patient. Je me souviens avoir fait un petit tour à Boston il y a quelques années et rencontrer un universitaire français qui s'est exporté là-bas, qui me racontait que les associations de patients aux États-Unis étaient partie prenante dans la levée de fonds pour la recherche, et on n'a pas encore peut-être avec les associations, certaines associations, on commence à avoir des choses qui émergent en France. Mais là, c'était carrément le fait que l'association de patients soit intégrée au même type au même titre que l'équipe de chercheurs, etc., sur la recherche clinique à mener, les attendus, etc., etc. Donc
Et sur la recherche clinique en France, vous pensez pas qu'il y a une
Alors, sur la recherche clinique, on est en train d'évoluer. J'ai lu il y a pas très longtemps que on est en train d'avoir effectivement les portails qui permettent de savoir, en termes d'information, de savoir à quelle recherche clinique on peut être intéressé en fonction de telle et telle pathologie. Mais on est en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir tous ces progrès. Sur les 30 dernières années, on a effectivement énormément de progrès dans le sens de l'information et des services, mais on voit encore tout le chemin qui reste à mener pour transformer ça en ce que ça peut apporter vraiment,
Alors,
donner
ouais.
le sens final, de la démarche.
Et justement, en termes d'avancée, les acteurs qui pourraient contribuer un peu plus justement à l'amélioration de la santé numérique, ce seraient lesquels? Est-ce qu'on finalement on prend en compte tout le monde aujourd'hui dans la numérisation de la santé, dans le numérique en santé, ou est-ce qu'il reste encore des secteurs ou des acteurs à prendre en compte?
Alors, tout le monde est pris en compte, mais pas forcément là où il devrait être écouté, là où on devrait être écouté. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, si on parle des citoyens, à un moment ou à un autre, on commence à écouter le citoyen, l'utilisateur final, l'usager, tout ce que vous voulez. Mais en gros, c'est déjà trop tard. Je reviens à ce que je disais au tout début, on l'associe pas à la vision politique. C'est tant qu'on n'a pas une grande conférence de consensus. Alors je crois qu'il y en a une qui va avoir lieu sur la télémédecine si des gens comme Pierre Simon arrivent à mettre ça en place. Mais tant qu'on n'a pas débattu, discuté entre citoyens, politiques, ingénieurs et tout le monde, ceux qui détiennent les finances, du soin et du système de soins qu'on veut pour le 21e siècle. Comme on a fait, de la même manière qu'on a fait une convention citoyenne pour le climat, il nous faudrait pratiquement une convention citoyenne pour le numérique avec un volet numérique
En
en
santé.
santé. Tant qu'on n'a pas discuté de tout ça, on va continuer à dire, bon, bah, alors voilà, je vous réunis, vous, il y a eu un comité citoyen réuni autour de mon espace santé, qui a fait un superbe travail, un très beau rapport, très intéressant de 30, 50 pages, là, donc il y a des avancées, hein, mais en gros, on leur a demandé, mon espace santé, là, on vous le montre, et maintenant qu'il est pratiquement fini, on va vous demander si vous le préférez, jaune ou bleu. En gros.
Est-ce que c'est pas un peu réducteur?
Si, si, complètement. C'est provocateur. J'exagère. Mais en amont, enfin bon, moi, si il y a quelques années, on m'avait demandé comment je voyais mon espace santé. Bon, là, c'est fait. Donc, je vais pas répondre. Là, je suis contente d'avoir un. On va avoir un outil de stockage. Comme j'ai accès à mon compte bancaire, je vais avoir accès à mon compte de données. Si j'avais encore des enfants au collège ou au lycée, j'aurais accès à Pronote. Mais pour faire une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, c'est pas parce que vous avez un compte bancaire que vous savez mieux gérer vos finances. Vous savez juste où elles en sont. C'est du stock, mais ça vous permet pas de dire, je vais investir comme ci, comme ça. C'est pas parce que vous avez accès à Pronote que ça vous aide à aider les enfants à mieux travailler telle ou telle matière. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez mon espace santé que ça va vous aider à faire plus de prévention. Donc moi je souhaite que c'est plutôt ce virage-là qu'on prenne. Dominique Pont nous l'a promis. Bon.
Il y a la notion d'éducation, il y a la notion de formation, j'ai l'impression aussi dans ce que vous dites, c'est faire en sorte.
Alors il y a une notion d'apprentissage. Il nous manque encore beaucoup de choses pour avoir un numérique et un numérique en santé, citoyen, utile et pertinent. Il nous manque effectivement un apprentissage commun citoyen de ce que c'est que le numérique, et pas seulement en termes de sécurité, mais ce nouveau milieu dans lequel on baigne. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça nous influence, etc. Donc un apprentissage citoyen, il faut un apprentissage technique, parce que là je suis désolée, mais quand on voit, en termes de cybersécurité, on n'est pas armé. Moi quand je vois, parce que je rejoins, enfin on a créé avec, enfin c'est Vincent Trélie a créé l'APSIS, une association maintenant très reconnue de promotion de la sécurité des systèmes d'information en santé. Il y a 10 ans on lui riait au nez quand il disait il faut s'occuper de la sécurité des systèmes d'information en santé. Maintenant tout le monde a bien compris le film et le jeu. Il y a toutes les dimensions de l'apprentissage à développer en France. Le citoyen, le technique, ça ne veut pas dire forcément demander à tout le monde de coder, mais le technique pour savoir répondre à une situation de cybersécurité. Et puis, toutes ces dimensions-là. Alors, c'est en train de venir progressivement parce qu'on met des certifications en place au niveau des élèves, le PICS, etc. Mais il faut donner un coup d'accélérateur parce que l'accélération du numérique citoyen et en santé est beaucoup plus rapide que l'accélération des apprentissages. On a maintenant depuis 3-4 ans, toutes ces études qui montrent le degré d'électronisme des Français. L'électronisme, c'est quand vous associez à la fois une forme d'illettrisme, c'est-à-dire vous ne savez pas trop comment vous débrouiller pour faire un courrier administratif ou remplir un formulaire, etc. Et vous associez ça avec le fait que vous ne savez pas non plus trop comment le faire, en plus en ligne. Et donc, il faut vraiment... Alors, on a des ambassadeurs, des collectivités locales qui s'attellent au sujet. Il y a 4000 ambassadeurs pour former les Français au numérique et il y aurait un tiers des Français qui auraient besoin au moins d'un coup de pouce, voire plus. Donc on est un peu loin du compte. Donc il y a encore tout ce chemin-là à faire. Et puis un autre chemin à faire qui est plus dans la mentalité, la façon dont on perçoit le numérique. On a beaucoup dit ça va être un levier pour ceci, cela. Je sais, je suis coupable aussi, hein, parce que le nombre de fois où j'ai animé des tables rondes, organisé des congrès ici, où la trame, c'était le numérique, levier de... Alors, tout ce que vous voulez. Vous avez dû entendre ça. Et en fait...
Un peu.
Voilà. En fait, c'est un levier de rien du tout. C'est-à-dire que... Enfin, c'est un levier de rien du tout, ça.
C'est un sacré levier, mais...
Une fois que vous avez décidé de travailler en réseau, oui, le numérique va vous aider. Mais le numérique va pas vous faire travailler en réseau. Il faut quand même repartir. Vous parliez de formation tout à l'heure. Si on parle de formation des professionnels de santé, la meilleure chose qui a été faite pour faire travailler les professionnels de santé en réseau, certes, après, ça va être la messagerie, etc. Mais avant qu'ils aient envie de s'envoyer des messages, parce qu'ils pourront le faire parce qu'ils auront la messagerie, avant ça, il faudra qu'ils aient travaillé ensemble, en communauté, qu'ils aient fait leurs études ensemble, éventuellement sur le plan universitaire. Et là, ils verront l'intérêt de travailler ensemble et ils se diront « Ah ben chouette, en plus, on a la messagerie qui va bien. » Mais si, comme on a fait, parce que les premières messageries, ça date de les premiers essais de messagerie. Enfin, moi, j'ai connu, puisque je suis un dinosaure, l'époque du réseau santé sociale et tous ces trucs-là. Hein. Bon, je ne reviendrai pas dessus. Bon, donc, une fois qu'on a l'outil, oui, ça facilite. Oui, ça devient un levier. Mais le fait qu'on ait envie de travailler en réseau, ça va passer par appelons ça l'école. C'est pour ça qu'il y a un institut de formation à la e-santé qui vient de se mettre en place au Mans. Là, je vais aller regarder ça de plus près. Ça me paraît une très bonne initiative pour dans la série de l'apprentissage. On a toujours en termes de dimension. Politique et sociale, on a un problème, on a un frein, on a des leviers, on a des tas de choses qui vont faciliter l'évolution du numérique en santé. Mais on a, à mon sens, un frein majeur qui vaut pour le numérique comme pour le numérique en santé, le numérique en éducation, etc. C'est que, je reviens à ce qui nous motivait quand on discutait avec Philippe Éveillard, c'est que le numérique, c'est un outil de société horizontale, de société en réseau. Et on l'a bien vu avec le confinement et les élections qui viennent de se dérouler, on a une verticalité en France dans notre organisation institutionnelle, politique et sociale qui coince. D'un côté, on a cette verticalité de décisionnel, de grandes décisions politiques, etc. Et de l'autre, on a quelque chose qui est fait pour outiller de l'horizontal. Et donc, ça, y a une ligne de fracture entre ce vertical et cet horizontal. Je peux donner un exemple pour illustrer ça.
C'est comme
quelqu'un. Voilà, je vais vous donner une anecdote pour illustrer ça. C'était à l'occasion d'une table ronde avec un médecin, un infirmier, sur justement le numérique, levier de la coopération dans l'hôpital, levier l'hôpital, tout ce que vous voulez. Enfin bon, tout ce qu'on voit à longueur de congrès et de séminaires. Et un médecin en plus très engagé qui a monté des solutions, de systèmes d'information qui sont utilisés dans plein de territoires. Il mettait le doigt sur un truc qui paraît banal et de détail, sur le fait qu'en France, vous pouvez toujours avoir les outils qui permettent de pas refaire une deuxième fois l'analyse biologique ou de correspondre entre professionnels, tant que le chef de service ou le chirurgien, il donnera pas la même valeur à la parole de son aide-soignant ou de son infirmière qu'à son alter ego, l'outil vous servira à rien. Et en gros, c'est ce qui s'était passé. D'ailleurs, la première fois qu'il y a eu un cas de, ça a été documenté. Il y a des publications scientifiques autour de ça. La première fois qu'il y a eu une épidémie, le patient zéro aux États-Unis, il avait été identifié par l'infirmière qui l'avait reçu, qui avait rempli consciencieusement le dossier qui permettait de retrouver ce patient zéro. Et puis malheureusement, le médecin qui avait fait la prise en charge avait raconté, après ils font des débriefs, etc., avait raconté à la suite, ah ben non, mais j'allais quand même pas perdre mon temps à regarder le dossier de l'infirmière. Bon, si vous voulez, vous voyez, là on est aux États-Unis, hein, je parle même plus de la verticalité France, etc.
Ça peut monter effectivement une fracture dans cette fameuse verticalité, oui.
Culturellement, vous n'êtes pas prêt à collaborer, on pourra vous mettre tous les outils du monde. Bon, donc effectivement, les efforts et demain, la e-santé, dans laquelle on n'a plus besoin de mettre le terme e, parce qu'on baigne dans un monde numérique, un milieu numérique qui fait que on n'a plus besoin de qualifier la e-santé, la e-éducation, la e tout ce que vous voulez, mais c'est juste notre système qui fonctionne comme ça. Demain, ça se passera beaucoup mieux si on accepte dès maintenant d'investir dans l'être humain. Ça paraît idiot comme conclusion, je sais pas si c'est.
Non, mais vous revenez à la base. À la base, c'est en dehors même du numérique, repensons déjà au monde de la santé et à la manière dont ça peut évoluer.
Et ça nous saute à la figure là en ce moment d'ailleurs. Hein. On se rend compte que on les a applaudis hein. Pendant 3 mois, on les a applaudis. Ouais, c'était super, mais est-ce qu'on a vraiment investi au sens où ça devenait pertinent pour l'avenir? On a peut-être encore du chemin à faire là-dessus.
Alors, si on parlait d'avenir, ça me permet de faire ma transition. Fermez les yeux, imaginez, dans 30 ans,
ouais,
c'est quoi la santé numérique?
Bah justement,
ce serait quoi idéalement?
Justement, la santé numérique, c'est juste la santé. C'est bon, le numérique est partout. On peut même déjà, enfin, on continue à appeler numérique aujourd'hui parce que effectivement, on a encore besoin de 30 ans pour effacer le prisme numérique. Mais moi, ce que j'espère plutôt dans 30 ans, ce que j'espère dans 30 ans. Avec le recul, en regardant dans le rétroviseur des 30 ans qui viennent de s'écouler, c'est qu'on recalibre bien ce que c'est qu'une innovation, ce que c'est qu'un progrès. Je crois que c'est Étienne Klein ou des gens autour de lui qui nous demandent de faire attention que toute innovation n'est pas synonyme de progrès. Et aujourd'hui, on le voit. J'espère que moi, qu'en 2050, dans 30 ans, j'espère qu'on aura limité les dégâts sur le plan de l'environnement, du climat, de la biodiversité, du réchauffement. Parce que sinon, c'est plus la santé ou la santé numérique qui va nous occuper. C'est tout simplement comment je vais cultiver mes céréales, comment je vais donner à boire à mes enfants, comment je vais préserver l'eau, moi, je vais préserver les communs, l'eau et l'air, qui sont nécessaires à ma survie. Donc,
qui nous permet d'être en bonne santé, tout à fait.
Ouais. Voilà, qui nous permet d'être en bonne santé. Ça mène à une deuxième condition. Donc déjà, aujourd'hui, prenons garde à ça, donnons plus attention à tout cela. Deuxième attention, c'est revenons aux fondamentaux qui sont que la santé. Les déterminants de la santé, ils sont dans le logement, dans l'environnement, dans le transport, enfin c'est à peu près 40%, dans l'éducation, dans l'emploi, dans le fait qu'on fait plus ou moins d'éducation physique ou pas, ou d'activité physique ou pas. Et puis je rajouterais peut-être même pas que de l'activité physique, mais aussi de la musique, etc. On est en train de révéler, de découvrir, d'argumenter, de faire des productions scientifiques hyper intéressantes sur l'intérêt de la musique, de la musicothérapie pour notre santé, notre santé mentale. Donc le deuxième point d'attention, c'est ça. Et pour arriver à ça, en fait, il faut que la réflexion, elle démarre dès aujourd'hui sur les notions de pertinence du numérique, un peu comme on a pertinence du numérique, un petit peu comme on a déjà lancé la réflexion sur la pertinence des soins. Est-ce que tout soin doit être réalisé? De pertinence du numérique, de sobriété numérique, c'est est-ce que je dois effectivement mettre des ordinateurs partout à tout va, parce que en termes d'impact, hein, du numérique sur l'environnement. Bon, on a beaucoup parlé de Netflix, du streaming, etc. Mais en fait, le gros impact, c'est quand même la fabrication de nos équipements, de nos ordinateurs. Donc, les faire durer plus longtemps, ne pas les changer tous les 4 matins, etc. Donc, il y a toute cette réflexion à avoir, et qui aura un impact sur la santé dans 30 ans. Et puis, alors bien sûr, il y aura un impact des algorithmes qui sont écrits aujourd'hui et qui devront être validés demain. Bon, là, je c'est pas une révélation, hein. On va vite se rendre compte que si on a 50 ou 50 000, mais ça on le sait depuis déjà 10-15 ans, 50 000 applications disponibles, tout n'est pas utile et pertinent. Donc cette réflexion doit absolument être menée, et il y a des organisations même institutionnelles qui disent régulièrement il faut qu'il y ait un débat, il faut ouvrir le débat, il faut pas que ça reste entre les experts, les ingénieurs, les bureaux, les administrations de ministères, etc., etc. J'ai beaucoup travaillé pour l'ordre des médecins. J'ai fait une demi-douzaine de livres blancs pour eux, et à chaque fois, en toile de fond, c'était ça, faire de la pédagogie pour que les médecins connaissent bien, comprennent bien le contexte dans lequel ils évoluent. Mais à chaque fois, il y avait un appel au débat, et au débat citoyen, professionnel, citoyen. Aujourd'hui, c'est le Conseil national du numérique qui lance cet appel au débat. Il y a une publication qui est sortie il y a quelques mois que tout le monde devrait lire aujourd'hui, qu'il travaille dans le numérique ou pas, sur ce qui devient fondamental à l'heure où on baigne dans ce milieu numérique, qui est un peu notre nouveau milieu, comme le milieu aquatique et le milieu naturel du poisson. Et simplement, nous aujourd'hui, on nage pas bien là-dedans, et on nous demande de nous adapter. Et il faut qu'il y ait un équilibre. S'adapter, oui, on le fera, mais aussi tenir compte des besoins de l'être humain et du milieu environnemental.
C'est une très bonne conclusion. Donc, beaucoup, Dominique.
Merci, Mélanie.
Merci, Dominique Lehal, pour votre présence dans ce podcast. Et puis, n'hésitez pas, si vous aimez ce podcast, likez, partagez, n'hésitez pas. À très bientôt. Au revoir.
Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. Il vous a plu ? N'hésitez pas à le partager. Et surtout, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur les autres épisodes qui vous attendent. Vous souhaitez nous voir aborder un autre sujet ? Envoyez-nous vos suggestions, n'hésitez pas, via notre site internet www.mivi-isante.fr. À très bientôt !